autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous demander de quel sang étaient faits nos ancêtres. Question qui peut paraître étrange, mais qui permet d'éclairer autrement toute l'histoire évolutive de notre humanité en lien avec les autres lignées humaines aujourd'hui disparues. En réussissant à décrypter les groupes sanguins des Néandertaliens et des Denisoviens, une équipe transdisciplinaire de l'Université d'Aix-Marseille, menée par la paléoanthropologue Sylvana Condemi, notre invitée, avec le bioanthropologue Stéphane Mazière, spécialisé lui en génétique et géographie des groupes sanguins, a mis en évidence que ces autres branches, aujourd'hui éteintes de l'humanité, étaient dotées du même système sanguin ABO que nous, Homo sapiens. Une surprise qui permet à la fois de confirmer notre origine commune en Afrique, mais aussi de mieux comprendre la santé, la démographie, les métissages successifs et même les causes possibles de disparition de ces autres espèces humaines qui ont peuplé la Terre entre 100 000 et 40 000 ans avant qu'une seule espèce, la nôtre, ne les remplace tous. Pourquoi et comment ? Piste de réflexion sur la diversité et la proximité de toutes ces humanités autour de la question de quel sang étaient faits nos ancêtres. Bienvenue.
Je crois qu'à la question qui avant était assez simple, qu'est-ce qu'être humain ? La question c'était, quelles ont été les étapes qui ont abouti à la naissance de nous-mêmes, de nos ancêtres, des êtres humains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être humain ? Une résonance beaucoup plus étrange et beaucoup plus intéressante, c'est combien de façons différentes y a-t-il eu d'être humain ? Et combien de façons possibles y aurait-il pu avoir d'être humain ? Et quelle part portons-nous en nous de ce qui constituait une petite partie de ces autres branches de l'humanité ou de nos ancêtres préhumains ?
Questions vertigineuses, en effet, comme le rappelait le biologiste et conteur Jean-Claude Amezen. Des questions auxquelles vos travaux apportent de nouvelles pistes de réponses. Sylvana Condemi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue en direct pour partager vos recherches et vos découvertes, les plus récentes, comme celle qui a fait l'objet de cette publication dans la prestigieuse revue PLOS ONE, revue scientifique, le 27 juillet dernier. Le décryptage des groupes sanguins de Néandertal et des Denisova. Une grande première réalisée par une équipe transdisciplinaire de chercheurs, anthropologues, paléoanthropologues, bioanthropologues comme vous, Stéphane Mazière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir vous aussi fait le voyage, alors vous depuis Bordeaux, pour être en direct avec nous. Vous êtes donc, je l'ai dit, bioanthropologue, spécialiste de génétique des populations et de la géographie des groupes sanguins. Et tous les deux, avec Sylvana Condemi, vous faites donc partie de ce laboratoire d'anthropologie bioculturelle, droit, éthique et santé du CNRS, de l'Université d'Aix-Marseille et de l'établissement français du sang. C'est donc en interdisciplinarité que la paléoanthropologue que vous êtes, Sylvana Condemi, éminente spécialiste des Néandertaliens, auteur entre autres de Néandertal, mon frère, qui vient de reparaître en collection Poche chez Flammarion. C'est donc vous qui avez eu l'idée de monter cette recherche sur les groupes sanguins de nos ancêtres, à partir, c'est vous qui me l'avez dit, Sylvana, d'une réflexion un peu en forme de boutade. Serait-il possible, et comment d'ailleurs, et avec qui, de transfuser un Néandertalien, c'est ça ?
C'est un peu autour d'une tasse de café que cette conversation a eu lieu entre nous tous, puisque comme vous l'avez très bien précisé, Caroline, il y a des spécialistes donc, des groupes sanguins dans notre laboratoire, des généticiens des populations. Et aujourd'hui, cette recherche était possible parce que nous avons à notre disposition des génomes de Néandertaliens qui ont permis donc de pouvoir travailler sur les groupes sanguins des Néandertaliens.
C'était une boutade en fait qui a donné lieu à une vraie question scientifique.
Oui, ça a donné lieu à une vraie question scientifique. C'est-à-dire on a commencé un peu en tâtonnant. Ça a pris du temps. Il a fallu, comme Stéphane expliquera, sélectionner les génomes de Néandertaliens ad hoc, ceux qui ont une bonne couverture, de pouvoir travailler, retrouver les gènes qui codent pour les groupes sanguins et pouvoir décrypter véritablement quels sont ces groupes sanguins des Néandertaliens.
Alors, ce que vous avez découvert, hein, on l'a compris, est révélateur, assez étonnant. Néandertal et Denisova avaient, sur toute cette longueur de temps, on va y revenir, le même système sanguin que nous. Mais précisons d'abord effectivement comment vous avez travaillé, Stéphane Mazière, avec également des spécialistes de l'établissement français du sang comme Jacques Chiaroni. C'est pas à partir du sang, on l'a bien compris, à ce que vient de dire Sylvana Condémy, il n'y a pas de sang de néandertalien, de dénisovien, c'est à partir de leur génome, c'est ça?
C'est exactement ça. D'ailleurs, même pour ces... Donc, on travaille sur 4 individus. Et au cours de l'étude, au départ, nous avons 3. Un quatrième a été publié tout récemment, donc il a fallu l'intégrer. Et en fait, il s'agit de données véritablement génétiques qui sont disponibles en ligne sur le serveur d'un laboratoire qui est le Max Planck en Allemagne. Et ces individus, d'un point de vue osseux, ne sont pas si spectaculaires que ça. C'est juste une petite phalange, une dent. Mais par contre, ils renferment une information.
Assez pour renfermer donc leur ADN. Une fois qu'on a retranscrit leur génome, on peut à partir de là déterminer quel est le groupe sanguin. Donc de ces 3 néandertaliennes et une dénisovienne, c'est ça qui ont vécu. L'échelle de temps est insensée, hein, entre 100 000 et 40 000 ans avant nous, quoi.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le plus ancien néandertalien que nous avons dans notre échantillon, c'est un néandertalien qui vient de l'Altaï, dans la Sibérie, et qui a entre, disons, 90 000 ans à peu près. Et les deux autres néandertaliens qui sont un européen, qui vient de Croatie, de Vindija, et un autre qui vient également de la région de l'Altaï, qui s'appelle Chagiskaya. Et les deux ont environ 40 000 ans. Et puis, nous avons ajouté à cet échantillon une Denisovienne qui vient de la grotte de Denisova, la même qui a fourni le néandertalien de Denisova, qu'on appelle le Altaï néandertal, pour vraiment ne pas faire trop de confusion. Et c'est le Denisovien 3 qui était extrêmement bien étudié, qui a été le premier dénisovien.
On va y revenir. C'est ça, parce que c'est encore une autre espèce humaine. On connaît mieux les néandertaliens que les dénisoviens, mais on va y revenir aussi. On peut préciser tout de même au sujet de ces groupes sanguins, autour de la question de quel sang étaient faits nos ancêtres, que ce n'est pas une idée tout à fait nouvelle. C'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment l'outil principal de la paléoanthropologie, le sang. Et puis la génétique est arrivée par-dessus, a finalement occulté ou surplombé. On a trouvé énormément de choses grâce à la génétique. Et maintenant, on y revient un peu, ce serait ça?
Oui, c'est ça. Alors, pas de la paléanthropologie à proprement dit, parce que la paléanthropologie, c'est vraiment...
Les os.
Les os et les espèces très anciennes, notamment en Afrique. C'était de l'anthropologie biologique sur le moderne. Et donc, à partir des années 50-60, bon, on savait travailler sur les groupes sanguins et les protéines du sang et toute la diversité qu'ils renferment. Et on connaissait l'ADN, mais on ne savait pas le scruter, vraiment l'étudier. Et c'est à partir des années 80 que ça y est, qu'on a les méthodes, la PCR... La fameuse PCR,
dont on se sert tant
aujourd'hui.
A été mise
en place et du coup, les chercheurs se sont focalisés sur les structures ADN et ont laissé de côté les groupes sanguins parce que l'ADN fournissait une information beaucoup plus fine, à meilleure résolution. Et les groupes sanguins sont restés vraiment étudiés par les professionnels des groupes sanguins, de la transfusion, de la génétique médicale. Et désormais, on y revient un petit peu parce qu'on a une excellente connaissance, enfin une meilleure connaissance de la diversité génétique humaine, plus d'échantillons actuels et anciens. Et également un panel de référence des groupes sanguins qui s'est amélioré. Donc, dans le laboratoire, on a fait un peu le pari de remettre à jour.
C'est ça, de remettre à jour ça et de se souvenir, au fond, que le sang, il est porteur de notre histoire, de toute notre
Bien
histoire.
Bien sûr. C'était d'ailleurs... ce sont des marqueurs qui ont été très, très, très utilisés en génétique des populations pour expliquer des migrations, des mouvements de population, des métissages. Donc, ce sont vraiment des... C'est un peu dommage que pendant très longtemps, on ne les a pas utilisés, mais ça se comprend comme Stéphane a très bien expliqué. Et le pari aussi, c'était de dire que les groupes sanguins ne sont pas tout à fait obsolètes. Il y a aussi des choses qui peuvent nous apprendre et des confirmations d'études qui ont eu lieu... en génétique. Donc, on a gagné un peu ce pari.
Vous avez gagné le pari autour de la question pourquoi et comment le sang et nos groupes sanguins sont aussi porteurs de notre histoire et de la longue histoire de et des humanités. Je propose un nouvel éclairage. C'est celui du professeur Jean-Daniel Tissot de l'Université de Lausanne, hématologue et co-auteur de l'ouvrage « Il était une fois le sang » qui nous expliquait ici même pourquoi ces groupes sanguins et le système sanguin restaient quand même encore assez mystérieux.
Je pense que les groupes sanguins ont évolué parallèlement à l'humanité et à la vie.
ils sont les reflets d'histoires anciennes, de gènes qui ont été exprimés d'utilité à l'occasion. Et puis, ce qui les caractérise, me semble-t-il, et qui est très important à la fois dans le réel biologique et puis le réel symbolique, c'est qu'ils permettent d'avoir des différences entre nous tous dans la communauté humaine. Ces différences peuvent tuer. Si on regarde des transfusions qui sont incompatibles dans les groupes sanguins ABO, c'est relativement simple. Maintenant, on connaît bien ces groupes sanguins ABO, mais leur utilité reste un élément très discuté et discutable. Ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est pas parce qu'on est capable de prélever du sang facilement que tout ce qui s'exprime sur nos globules rouges ne s'exprime que sur nos globules rouges. Nous avons ces déterminants sur tous nos tissus. Ils font tenir compte parfois lors de transplantations d'organes solides. D'autres antigènes font partie de l'expression de protéines sur nos cellules qui ont des fonctions. Et comme systématiquement la nature essaye d'évoluer, mute, teste, essaye de trouver des éléments qui vont nous porter des avantages, nous avons ces diversités qui peuvent être maintenues, qui sont l'expression justement de cette plasticité de notre génome, et peut-être qu'il n'y a pas d'autres fonctions. En revanche, pas mal de bactéries, pas mal de virus ou d'autres éléments arrivent et tirent parti de ces substances qui sont sur nos globules rouges, sur nos plaquettes, globules blancs, pour essayer de pénétrer à l'intérieur de nos cellules, pour essayer de les violer et pour essayer justement de pouvoir les détruire. Donc finalement, c'est une interaction très étrange que nous avons à travers nos groupes sanguins entre notre vie intérieure et notre vie extérieure et qui a perduré au fil des années et qui perdure sur tous les continents quand on va regarder la distribution des groupes sanguins ABO qui varie extrêmement d'une population à l'autre selon son origine. On a fait d'énormes progrès sur leurs fonctions parce que ce sont des protéines ou ce sont des glycoprotéines ou ce sont des sucres qui ont des fonctions biologiques extraordinairement bien décrites et bien comprises maintenant. Mais est-ce que nous sommes dans une vision utilitariste? Je pense que c'est on n'a pas la réponse à donner définitivement. On a fait des associations de certains groupes sanguins et maladies. Ça reste des associations qui, peut-être, illustrent le fait que nous avons survécu à des pathogènes il y a bien longtemps qui ont disparu.
Stéphane Mazière, vous voulez réagir à cet éclairage du professeur Jean-Daniel Tissot? Vous avez beaucoup travaillé sur la géographie des systèmes sanguins. On a beaucoup de systèmes sanguins. Là, vous avez travaillé précisément pour Néandertal et Denisova sur le système ABO, mais on a beaucoup de systèmes sanguins qui disent beaucoup de nous et de notre histoire.
Oui, alors on a travaillé sur ABO, enfin, c'est beaucoup focalisé sur ABO et Rhésus, RH. En fait, on a travaillé sur 7 familles de groupes sanguins. ABO, c'est qu'une seule famille, un seul système, et on en connaît une quarantaine cette année. Donc ça fait quand même beaucoup de familles de molécules sur le globule rouge. Et ces familles, ces systèmes de groupes sanguins, effectivement, leur géographie permet d'éclairer deux événements des populations qui sont l'histoire des peuplements de la Terre. Et on sait qu'un groupe sanguin qui s'appelle Diego permet de retracer le peuplement de deux continents, l'Amérique et son premier peuplement il y a 15 000 ans, et les expansions mongoles en Asie centrale. Et les groupes sanguins aussi, leur géographie, notamment dans les régions tropicales, permettent de mettre en évidence, c'est ce que disait l'intervenant, les relations hommes-pathogènes, notamment avec le paludisme.
Donc le sang nous dit énormément de choses. Est-ce que vous avez l'impression, Sylvain Acondémy, que ces groupes sanguins ABO, ce Rhésus, ce serait une signature aussi de notre espèce humaine et des ancêtres humains qui nous ont précédés, des autres humanités? Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est aller un peu loin ou...
C'est dans un sens une signature, c'est-à-dire que si on prend le système ABO, avant notre étude, on ne pensait pas que les Néandertaliens présentaient les trois antigènes A, B et O. On pensait, il y avait une seule étude qui avait été faite, on avait l'idée que les Néandertaliens étaient du groupe O. Et on sait par ailleurs que chez les grands singes, les gorilles sont du groupe B, les chimpanzés du groupe A. Donc il est possible que le système ABO soit vraiment typique de l'ensemble des primates.
De l'ensemble des primates, avec les humains dans la diversité, voilà. Dans la totalité de
l'être. Mais le système
lettres,
enfin, ABO n'existe. On pensait que c'était quelque chose de typique d'Homo sapiens. Et en réalité, avec notre étude, nous avons montré que les Néandertaliens et les Denisoviens avaient ce système ABO. Et ce qui est très intéressant, qu'on vient de dire, c'est que nous avons trois Néandertaliens qui sont répartis sur un temps chronologique très long,
on environ 50 000 ans. 100 000 à 40 000 ans, oui,
voilà,
c'est fou.
sur un territoire qui est très très grand, environ 5000 kilomètres, et pourtant nous trouvons cette grande variabilité. Voyez, et ce qui est très très intéressant, c'est que c'est le premier apport de notre étude, et puis pour voir ce que nous a dit notre intervenant, ces groupes sanguins s'expriment effectivement dans les gènes, mais on a pu aussi démontrer qu'ils s'exprimaient comme chez nous, également dans d'autres régions, pas simplement dans le sang, mais par exemple dans le tractus digestif, etc. Ils sont comme nous, sécréteurs ou non sécréteurs. Et ce qui est très intéressant encore, et peut-être Stéphane pourrait intervenir sur ça, c'est-à-dire qu'il y a des Néandertaliens qui sont non sécréteurs, et nous savons que quand on est non sécréteur, ça protège un peu contre certains virus, en particulier les norovirus, qui sont ceux qui donnent des diarrhées et qui peuvent, chez les enfants petits, être vraiment très, très dangereux et même létales.
Ce qui veut dire que votre étude et ses résultats nous rapprochent à la fois énormément de ces autres branches de l'humanité, donc Néandertal et Denisova, Stéphane, et ce qui veut dire aussi qu'on peut aussi un peu décrypter peut-être leur santé, leur démographie, évidemment leur migration, à travers justement ces groupes sanguins.
Oui, oui, tout à fait. Le caractère, la capacité à sécréter ou pas ces groupes sanguins, notamment dans les salives, c'est un trait qui est spécifique à l'homme. Les autres primates sont sécrètes.
C'est-à-dire que sur notre salive, on peut découvrir notre groupe sanguin.
On peut avoir de la BO. Et cette capacité-là, alors effectivement, de ne pas sécréter, c'est une protection, mais effectivement, les relations groupe sanguin, maladie, pathogène, virus, bactéries, parasites, il y a quand même pas mal d'associations qui ont été démontrées. Le paludisme est l'un des, on va dire, l'un des mécanismes les plus flagrants, mais il y a aussi le choléra. Il semble que d'être B soit avantageux. Donc c'est pour ça qu'on pense que les populations en Asie du Sud, dans la vallée du Gange par exemple, c'est là où on rencontre la plus grande proportion de groupes sanguins B, environ 25%, peut-être, et c'est le berceau d'émergence de la peste et du choléra. Donc,
comme quoi le sang nous raconte le passé, notre présent, et peut nous aider peut-être à mieux préparer notre avenir autour de la question de quel sang étaient faits nos ancêtres. Stéphane Mazière, vous nous avez proposé un choix musical forcément très sanguin, c'est Blood de Pearl Jam, qu'on écoute tout de suite sur RFI. Attention, ça déménage. Blood, le sang de Pearl Jam sur RFI. Ah oui, de quoi faire sourire nos invités autour de la question de quel sang étaient faits nos ancêtres. Question ouverte évidemment par vous deux. Sylvana Condemi, paléoanthropologue, Stéphane Mazière, bioanthropologue, généticien, qui avec une équipe transdisciplinaire de l'université d'Aix-Marseille viennent de décrypter les groupes sanguins de Néandertal et de Denisova, retrouvant donc chez nos ancêtres la même, enfin nos ancêtres humains, la même variabilité de groupes sanguins A, B, O, ce qui apporte un nouvel éclairage sur les origines africaines, les migrations, la santé de ces lignées humaines aujourd'hui disparues qui étaient bien plus proches de nous qu'on ne le pensait. Vous avez donc reconstitué les groupes sanguins de trois néandertaliennes et d'une denisovienne à partir de leur génome respectif, de cet ADN ancien décrypté et séquencé par le célèbre généticien des populations Svante Paabo de l'université Max Planck de Leipzig, chez lui qui en 2010 a séquencé le génome complet de Néandertal, révélant au monde notre métissage, hein, celui d'Homo sapiens avec Néandertal. C'est lui encore, Svante Paabo, en 2010 toujours, qui à partir d'une phalange retrouvée dans une grotte de Denisova, a mis au jour cette nouvelle espèce humaine, les Denisoviens, à partir de cette phalange d'une fillette de Denisova. Cet ADN ancien a donc changé la donne et les différents visages de nos ancêtres, a commencé donc par la découverte de ces Denisoviens que l'on connaît assez mal et assez peu. Je vous propose d'écouter ce que nous en disait ici même le professeur Svante Paabo sur cette découverte, sur cet exploit de la paléogénétique.
Tout d'abord,
ça a été une des plus grandes surprises que j'ai connues dans ma carrière, cette découverte. Il s'agissait d'un minuscule bout d'os, la dernière phalange du petit doigt d'un auriculaire. Et on était convaincus que ce serait soit un néandertalien, soit un homme moderne. Et quand on a séquencé son ADN, on s'est aperçu que ce n'était ni l'un ni l'autre, mais qu'il s'agissait d'un cousin lointain, éloigné des néandertaliens, qui avait dû se séparer 400 000 ans auparavant. Ce serait donc comme un cousin, là encore, ou un parent très éloigné. Et il se trouve qu'on retrouve aussi leur patrimoine génétique en Asie, notamment aussi dans les populations du Pacifique. Donc, si vous avez vos racines en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Australie, eh bien, 5% de votre ADN provient des Denisoviens.
Est-ce que vous pensez, Svante Paabo, que vous pourriez tomber comme ça sur d'autres petits fragments d'os et arriver à déchiffrer d'autres génomes ? Enfin, qu'on n'en est qu'au début de cette recherche paléogénétique de nos origines ?
Si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit non, on sait l'essentiel de ce qu'on peut savoir. Mais depuis la découverte des Denisoviens, mon esprit s'est ouvert à la possibilité que l'on puisse trouver d'autres espèces archaïques à l'avenir. La Chine est un territoire passionnant à explorer et on va sûrement au cours des fouilles faire d'autres découvertes.
Sylvain Lacondémy, j'ai envie de vous faire réagir à ce que vient de dire Svante Paabo sur toutes ces lignes anciennes, sur la découverte des Denisoviens, mais aussi sur ce qu'il a dit, le lien avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que dans votre décryptage des groupes sanguins de Néandertal et de Denisova, ressort aussi de ces travaux une étonnante surprise et un lien, on parlait de comment transfuser Néandertal, un lien avec des autochtones de Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec des aborigènes d'Australie. Quel lien ? Expliquez-nous ça.
Alors, c'était là une très, très grande surprise. Alors, au départ, il faut savoir que quand on a donc... La surprise vient de l'étude de ce qu'on appelait autrefois le système Rhésus. On a découvert un allèle particulier. Et cet allèle particulier, dans un premier temps, quand on a travaillé, on pensait qu'il était propre aux Néandertaliens, qu'on nous examinions. Et puis un jour, un de nos collègues, Jacques Yaroni, qui épluche bien la bibliographie, nous a dit « Non, il y a un article qui vient de sortir, il y a un cas en Australie où on a trouvé exactement le même variant que nous avons, nous, chez nos Néandertaliens. »
Au niveau du rhésus, hein, le même
variant.
Au niveau,
voilà, c'était quelque chose qui était inconnu. Un allèle qu'on appelle Duc 2, hein, comme ça. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on s'est posé la question, on s'est dit « Mais... est-ce que c'est une mutation particulière ? Est-ce que c'est par hasard, vu la variabilité humaine, tout est là, possible ? » Et on s'est rendu compte, en faisant des recherches encore plus poussées, en examinant notamment 80 génomes de individus actuels Homo sapiens qui viennent de Papouasie qu'il y avait un autre individu qui présentait le même variant. Et au fait, donc, on s'est interrogé d'une autre façon. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des études que nos collègues ont faites qui ont montré que ce variant-là, ce n'était pas une mutation par hasard, mais ça venait vraiment de Néandertal. Et la seule explication que la paléoanthropologue peut trouver, c'est que lorsque Homo sapiens s'est sorti d'Afrique, et nous savons aujourd'hui qu'il y a eu différentes tentatives pour, de sortie d'Afrique. Celle dont tout le monde parle, c'est celle aux alentours de 60 000 ans, celle qui a eu le plus grand succès, mais il y a eu d'autres tentatives qui ont été faites avant. Eh bien, au moment de la sortie d'Afrique, il y avait, en Levant, il y avait des Néandertaliens qui se trouvaient là. Il
est possible, Proche-Orient.
Au Proche-Orient. Donc, il est possible qu'il y ait eu un métissage entre ces Homo sapiens qui étaient sortis d'Afrique et les Néandertaliens qui se trouvaient au Proche-Orient.
Qui étaient sortis d'Afrique bien avant.
Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce métissage, dans ce métissage, cet allèle particulier est passé aux Homo sapiens qui ont continué leur route vers l'Asie. Et c'est par donc, ce métissage qu'on retrouve cet allèle, pas dans une très grande proportion, parce qu'on sait que toute la variabilité qu'avait Homo sapiens n'est pas, ne se retrouve pas aujourd'hui dans l'Eurasie, mais qu'au moins chez certains individus, ce variant qui est venu par un métissage existe encore. Donc c'est vraiment une très très belle histoire.
C'est une belle histoire, ça permet de revisiter toute l'histoire de nos migrations, de nos différentes sorties d'Afrique, et que voilà, nous on a un peu de génome de Néandertaliens, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a un peu de rhésus de Néandertaliens. Ouais. Enfin, ça, c'est pas que ça brouille les pistes, mais ça les rend buissonnantes, multiples.
Non, mais c'est-à-dire que ça permet vraiment de répondre à la question du départ. C'est s'il fallait aujourd'hui transfuser un Néandertalien, on sait que la plupart des variants que nous avons trouvés chez Néandertaliens se trouvent aujourd'hui dans la population africaine subsaharienne. Et ce, donc, s'il fallait transfuser Néandertal, on aurait plus de chances de trouver un donneur dans, dans ces populations-là.
Sahélienne, africaine, parce que, alors là c'est totalement contre-intuitif et pourtant extrêmement simple, et moi ça me fascine, la plus grande diversité génétique de la planète est sur le continent africain. Parce le plus riche, c'est le continent africain. Après, on perd, finalement.
Oui, parce que, au fait, l'origine d'Homo sapiens est en Afrique. C'est en Afrique qu'Homo sapiens s'est différencié. C'est en Afrique qu'a eu les premiers croisements avec les sous-populations africaines qui étaient présentes avant même qu'ils ne sortent d'Afrique. Et au moment de la sortie de l'Afrique, tout le monde...
Des sorties d'Afrique,
mais surtout la plus importante, toute la variabilité africaine n'est pas sortie, parce que toute la population n'est pas sortie d'Afrique.
Oui.
Donc, il y a simplement un échantillon de cette variabilité qui est sortie d'Afrique et qui a colonisé l'Eurasie, l'Europe et l'Asie. Donc, nous avons une moindre diversité génétique dans les populations eurasiennes, d'Eurasie et donc d'Europe et d'Asie, que nous l'avons en Afrique. Et c'est pour ça que s'il fallait transfuser Néandertal, ben c'est encore en Afrique qu'on aurait le plus de chances de trouver un donneur.
En Afrique, le plus de diversité, le plus de richesse autour de la question de quel sens ont fait nos ancêtres et pourquoi tant d'espèces humaines différentes, finalement, sont apparues, ont cohabité, se sont mélangées, ont disparu. Pour mieux comprendre cette bouleversante dynamique de nos humanités, j'ai envie de dire, je propose à tous les deux un nouvel éclairage. C'est le regard croisé de deux autres paléo-anthropologues que vous connaissez bien, Sylvana et Stéphane, je crois. Antoine Balzo, du Muséum National d'Histoire Naturelle, et Isabelle Crèvecoeur, de l'Université de Bordeaux, qui travaille, elle, à la fois sur Néandertal, mais aussi sur la diversité, justement, de ses contemporains en Afrique. Une histoire, on l'a dit, qui se révèle plus complexe, plus buissonnante et surtout plus dynamique, comme nous l'expliquait donc ici même dans ce studio, c'était en janvier dernier, Isabelle Crèvecoeur d'abord et Antoine Balzo ensuite.
On a des pulsations, des dynamiques. Il faut imaginer quelque chose de très vivant qui va se contracter, qui va se répandre, qui va parfois s'arrêter tout simplement. Et moi, c'est comme ça que j'imagine ces groupes humains, à la fois Néandertal et à la fois en Afrique aussi. C'est-à-dire que au gré des contraintes climatiques, des contraintes, on va dire géographiques, environnementales, des contacts humains, eh bien, on va avoir ces groupes qui vont vivre et qui vont évoluer.
Et André Balzo ?
Oui, justement, par rapport aux autres espèces humaines, la paléogénétique a apporté des données presque à l'envers par rapport à cette idée-là et à cette approche-là. On a renseigné l'existence des Denisoviens. Ce n'est pas encore bien ce que c'est d'un point de vue morphologique.
Donc de cette grâce autre à génétique. Population humaine à peu près en même temps que Néandertal, mais plus...
Et Homo sapiens, et Homo plutôt sapiens, en Asie.
Et plutôt en Asie,
donc,
c'est ça.
On en trouve des traces dans les gènes des hommes d'aujourd'hui en Asie du Sud-Est. On commence à en trouver des traces dans les gènes de fossiles en Asie centrale, en Russie, dans les sédiments. Mais finalement, on ne sait pas ni qui ils sont, ni où ils étaient. Ça reste encore complètement mystérieux, et dans l'espace et dans le temps. Et finalement, c'est la même chose pour toute cette région asiatique. Pour Néandertal, on n'est pas sûr de l'extension à l'est de Néandertal. Ou pour Homo sapiens, on ne sait pas jusqu'où nous étions. Et finalement, il y a encore tout ce flou archéologique. Et des disciplines différentes nous donnent des petites informations, des petits éclairages différents qui nous montrent ça, qui nous montrent cette mobilité humaine, cette cohabitation par moment, que ces humanités si différentes se sont croisées, ont échangé des gènes. Et voilà, le mystère maintenant, c'est de penser qui ils étaient, à quoi ils ressemblaient pour Denisova, et puis peut-être un jour d'essayer d'apprécier leur culture, leur comportement. Mais c'est vrai que c'est incroyable aujourd'hui, alors qu'on n'a plus qu'une espèce humaine, d'imaginer qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, il y avait ces trois humanités différentes qui cohabitaient.
Trois humanités, et peut-être même plus. Oui, Isabelle.
J'avais envie de rebondir en disant qu'il y en avait peut-être encore une autre, parce que ces mêmes données génétiques, ce que Antoine décrit pour Denisova, ont aussi suggéré la présence de populations dites archaïques en Afrique, qui auraient elles-mêmes côtoyé les Homo sapiens et qui se seraient mélangées avec elles dans des périodes contemporaines des Néandertaliens, vers 40, 30 000 ans. Donc on pourrait imaginer même encore des espèces fossiles.
Qu'on pourrait découvrir des espèces fossiles, d'autres espèces, encore une autre humanité sur le continent africain, en même temps qu'Homo sapiens, que Néandertal, que Denisova. Enfin, c'est presque
les données, la génétique le suggère en tout cas.
Oui, et puis il faut aussi penser collaboration par rapport à ces différentes approches.
Bien sûr.
Au final, on est tous en train de travailler sur la même chose, mais avec des prismes différents, des méthodes différentes. Et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ça, qu'au final, on ne devrait pas trouver des choses complètement différentes. On devrait illustrer, enrichir la même image. Et c'est vrai que, quelle que soit l'approche, c'est tellement parcellaire le niveau d'information qu'on a. On n'aura jamais tous les fossiles biologiques, on n'aura jamais toutes les données génétiques. Il y a des biais, quelle que soit l'approche. Et la difficulté aujourd'hui, c'est aussi de mettre toutes ces approches ensemble pour faire des travaux qui nous permettent d'aller le plus loin possible et de mieux comprendre l'humanité du passé.
Stéphane Mazière, tout est ouvert, hein, comme le disaient Isabelle Crèvecœur et Antoine Balzo dans cet éclairage. Et d'abord, l'interdisciplinarité. Finalement, vous recherchez tous la même chose, mais pour comprendre, vous travaillez sur les groupes sanguins, la génétique, on peut travailler sur les fossiles. Il faut finalement toutes les données essayent de quoi de reconstituer un véritable puzzle.
C'est un véritable puzzle qui est à la fois biologique et culturel.
Ah, c'est ça, bien
c'est
sûr.
Ça. Et donc ça,
sûr.
C'est véritablement la définition de la discipline, c'est la diversité de l'homme depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Et cette diversité, elle est biologique et culturelle. Les outils, les rites...
Et il faut donc étudier tout ça en même temps. Enfin, c'est des bribes à chaque fois, à partir de petites bribes. On peut essayer de reconstituer un peu, mais à chaque fois, c'est de plus en plus buissonnant, c'est de plus en plus multiple. Et j'ai envie de dire, de plus en plus proche et de plus en plus loin de ce qu'on imaginait. De nous et loin de ce qu'on imaginait.
Et plus on creuse, plus on trouve. Et finalement, la question, à chaque fois, on répond à une question, mais on en ouvre une seconde derrière. Et on l'a vu là, au cours de notre étude, on a eu un nouveau Néandertal de publié. Un nouveau système allèle rhésus de publier, de nouveaux groupes sanguins de publier. Il parlait de ces espèces, différentes espèces homo. Entre-temps, il y a également une espèce lusonensis en Asie du Sud-Est.
Absolument.
Donc ça ne fait que... ça ne s'arrête jamais, en fait.
Sylvana Condémy, l'approche interdisciplinaire, justement, elle est obligatoire aujourd'hui, vu le foisonnement. On n'est plus du tout dans une optique linéaire. Ça n'a pas été un progrès continu. Enfin, c'est absolument pas ça. Différentes sorties d'Afrique, des allers-retours, des mélanges, des métissages.
C'est-à-dire que la discipline s'est enrichie vraiment depuis, 25 ans. Et par exemple, la paléanthropologie que je fais aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai appris quand j'étais étudiante ou quand j'ai commencé mes travaux. C'est-à-dire que, par exemple, si on revient au Denisovien, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des petits fragments, une petite phalange. On a des petits fragments osseux.
Et à partir de ça, on peut dire que c'était une autre espèce.
À partir de ces fragments osseux, on a des méthodes pour nous dire si ces fragments osseux appartiennent à des humains ou à des animaux. Ça nous dit même l'espèce animale à laquelle appartient le petit fragment. Donc, on avance énormément. Donc, on peut, à partir de ces petits fragments, travailler sur l'ADN. Et nous, paléanthropologues, on est à la fois étonnés, émerveillés, un peu frustrés, parce que notre travail a toujours été de donner des caractères. Or, il se trouve que Denisova, comme disaient justement les collègues tout à l'heure, ben on ne les connaît pas du point de vue physique.
On ne les connaît que du point de vue génétique, voilà. Enfin, à partir de cette phalange.
Alors, il est possible que nous ayons trouvé des fossiles, et je le crois vraiment, en Asie, qu'on appelait autrefois des Homo erectus évolués ou des Homo sapiens archaïques, qui, pourquoi on les appelait comme ça ? Parce qu'ils n'avaient pas tout à fait la tête des Homo erectus et pas tout à fait la tête des Homo sapiens. Donc, ils étaient un peu plus évolués que les Homo erectus, un peu moins que les Homo sapiens. Donc, est-ce qu'on ne les a pas trouvés, ces fossiles ? Mais comment pouvoir dire que ce sont des vrais Denisoviens si on ne peut pas les comparer à des analyses génétiques qui ne sont pas toujours possibles sur les fossiles. Donc, on se trouve dans une... Mais on est dans un monde de découvertes qui est absolument incroyable et qui est magnifique parce que chaque étude apporte un petit fragment, une petite pièce à ce puzzle qui rend l'histoire plus complexe, plus difficile à interpréter, mais plus fascinante.
Plus fascinante, clairement. Et à propos de petites pierres, alors votre étude à vous sur le décryptage des groupes sanguins de Néandertal et Denisova a mis en lumière autre surprise, enfin, en tout cas, a rajouté une petite pierre à cette énigme de la disparition de Néandertal. Qu'est-ce qui va en parler peut-être vous, Stéphane ? C'est vrai que vous avez mis en lumière que probablement dans leur sang, il y avait un déficit, une maladie sanguine chez le nouveau-né. Expliquez-nous ce que vous avez découvert et qui rajoute une pierre de plus au faisceau de circonstances qui ont produit la disparition de Néandertal.
Oui, alors ça concerne le groupe sanguin Rhésus, pour lequel on a découvert en fait des formes de ce gène qui aujourd'hui chez l'homme moderne sont rencontrées dans des cas d'incompatibilité entre la mère et son enfant.
Ah, c'est ça.
Voilà. Donc c'est pas une maladie chronique au quotidien, c'est juste voilà, le risque au cours d'une grossesse et notamment de l'accouchement. Finalement, d'une attaque du fœtus par les anticorps de sa mère.
C'est ça, que la mère refuse donc fausse couche ou incompatibilité entre les deux. Et ça, vous avez trouvé ça chez, donc en analysant les groupes sanguins et le rhésus.
Le rhésus, voilà, qui présentait une forme qui est connue comme étant un rhésus qui est incomplet. Donc, et on se dit, bon, effectivement, si cette femme-là rencontre une personne qui n'a pas le même rhésus, alors il peut se produire une grossesse à risque. Et donc, jusqu'à présent, ben, on s'est dit que c'est peut-être aussi un élément en plus à mettre, à rajouter, pour expliquer un peu finalement la disparition de ces derniers Néandertals.
L'énigme de la disparition des Néandertals, en tout cas, c'est votre pierre apportée à l'édifice, si j'ose dire. C'est toujours aussi fascinant. Je propose d'écouter, à propos de Néandertal, justement, votre choix musical, cher Sylvana Condemi. Alors, peut-être parce que vous avez écrit Néandertal, mon frère, en tout cas, vous avez choisi cette chanson osée et néandertalienne d'Ariel Dombal sur RFI. Ça s'appelle À la Néandertal, peut-être vaut-il mieux éloigner les oreilles chastes et enfantines du poste. À vous de juger sur pièce.
Vous êtes animal, je suis animal depuis toujours. Je vous tends mon cou, à vous mon loup-garou, faites-moi l'amour. À la Néandertal, vous aimez mon odeur, j'aime votre odeur depuis toujours. Au tigre du Bengale, ma biche hydrocéphale, faites-moi l'amour. À la Néandertal, à la Néandertal. Je vous rends fou, permettez.
que je vous avoue, mais prenez-moi n'importe où. À la Néandertal.
À la Néandertal, Ariel Dombasle en rêve sur RFI de faire l'amour à la Néandertal. Sylvana Condemi, quel impertinent choix musical, mais qui montre aussi l'étendue au fond de nos clichés sur Néandertal.
Oui, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la découverte de Néandertal, c'est 1856. Et on était dans le 19e siècle, dans une époque où il y avait d'autres disciplines qui sévissaient, comme par exemple la phrénologie. Donc on a voulu étudier le crâne de Néandertal en fonction de sa morphologie, de ses bosses. Et on s'est rendu compte qu'il avait un front fuyant et qu'il avait en revanche un occipital qui était bien bombé. Et donc par rapport à ça, ça rentrait dans les critères de la phrénologie, d'un individu qui était brutal, qui était vraiment une brute épaisse. Et on a du mal encore aujourd'hui de se détacher de cette image d'épinal.
Cette image de brute épaisse.
Hein. Brute épaisse.
Et pourtant, alors, vos recherches, vos découvertes à tous les deux, Stéphane Mazière, Sylvana Condemi, sur les groupes sanguins des Néandertaliens et des Denisoviens, nous rapprochent énormément hein, de nos ancêtres. Et puis, on sait que Néandertal enterrait ses morts et qu'il peignait aussi dans les grottes. Il y a déjà 64 000 ans de ça, donc pour les débuts de cet art pariétal, c'est bien plus tôt qu'on ne le pensait. Et ça vient d'être prouvé par une équipe de paléoanthropologues espagnols et français qui ont donc démontré que ce sont bien les Néandertaliens qui ont peint la grotte andalouse d'Ardalès et qu'ils y sont probablement revenus pendant des millénaires. Écoutons les explications de Francesco Derico, paléontologue au CNRS, que vous connaissez bien aussi. Je crois, Sylvana Condemi, il est interrogé par Marjorie Bertin.
Ce qui a attiré l'intérêt des chercheurs sur cette grotte et sur deux autres grottes espagnoles était la datation menée il y a 2 ans des stalagmites couvrant les peintures. Et selon cette datation publiée dans Science, certaines des peintures présentes dans ces trois grottes, parmi lesquelles l'Ardalès, seraient datées d'environ 64 000 ans. Et à l'époque, il n'y avait que des Néandertaliens dans la péninsule ibérique, donc ces peintures auraient été faites par les Néandertaliens. Ces datations ont suscité pas mal de polémiques et d'ailleurs certains chercheurs avaient avancé l'idée que les taches rouges présentes sur les stalagmites Ardalès n'étaient pas des peintures mais simplement des résidus naturels d'oxyde de fer présents sur les stalagmites. Donc et c'est à ce moment que nous sommes arrivés et nous avons mené avec des collègues espagnols et surtout la première auteure du travail, Africa Pitache-Marty, qui a travaillé à l'université de Bordeaux pendant plusieurs années, une analyse sur quelques milligrammes en effet de ces résidus rouges sur les stalagmites. Et on a pu montrer ainsi qu'il s'agit bien de peinture, donc il ne s'agit pas d'un résidu naturel, que ces résidus d'ocre ne correspondent à aucune des sources possibles à l'intérieur de la grotte, donc cela fait penser que les Néandertaliens ont ramené cet ocre de l'extérieur de la grotte, de sources qui actuellement ne sont pas connues. Et aussi, ça a montré qu'il y a des petites différences entre les différentes taches rouges présentes sur ces stalagmites et qui font penser que les Néandertaliens ont fréquenté ces grandes salles dans lesquelles il y a cette coulée stalagmitique à plusieurs reprises. Et cela semble aussi confirmé par les datations des différentes couches de stalagmites. Donc l'idée qui ressort de cela, quoique il faudrait avoir plus d'analyses pour pouvoir le démontrer, parce que pour des raisons de conservation, l'analyse a été menée simplement sur quelques petits fragments de pigments, les Néandertaliens, pendant plusieurs centaines, voire des milliers d'années, sont rentrés dans la grotte, ont fréquenté cette salle et ont mis du pigment un petit peu différent sur les stalagmites. Cela, naturellement, montre qu'il y a une très longue tradition, une des pratiques culturelles prolongées dans le temps de la part des Néandertaliens.
Sylvana Condemi, vous voulez réagir à ce que vient de dire Francesco Derica au micro de Marjorie Bertin. Les Néandertaliens peignaient dans des grottes il y a 60 000 ans. Ils y sont revenus. Il y avait vraiment des pratiques culturelles.
Oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte à chaque nouvelle découverte que finalement, ces Néandertaliens avaient une vie, pas simplement une vie, mais une vie complexe culturelle. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà quelques années, il y a des collègues de Bordeaux qui avaient montré justement, que des Néandertaliens s'étaient aventurés il y a plus de 170 000 ans dans la grotte de Bruniquel.
Absolument.
Et qu'ils avaient, il y avait des sortes de structures, comme si c'était des structures que nous, on n'interprète pas, qui étaient des stalagmites qu'ils avaient cassées, qu'ils avaient fait des sortes de structures. On se rend compte de plus en plus que...
Ils avaient fait des sortes d'échafaudages, voilà. Ils avaient du mal de la lumière. Enfin, c'était...
Voilà. Donc, on se rend compte que, d'une part, on a toujours cru que c'était Homo sapiens qui avait été en premier la personne qui avait investi les grottes et les cavités profondes. Ce n'est pas vrai, puisque les Néandertaliens, il y a déjà 170 000 ans, le faisaient. Ensuite, on se rend compte qu'il y a aussi, dans certaines grottes, comme dans ce cas-là, des peintures qui datent d'une époque, et ça, Francesco De Rico l'a très, très bien dit, le préhistorien, c'est une époque où on n'a absolument pas d'Homo sapiens en Europe. On n'est pas dans la tranche, vous voyez, 43 000 ans, 42 000 ans, 45 000 ans, où on peut s'interroger s'il y a déjà des sapiens en Europe. C'est une époque où il n'y a surtout pas, dans le sud de l'Espagne, des Homo sapiens. Donc, ça interpelle. Il est possible, moi je fais partie de ceux qui pensent que les Néandertaliens avaient une vie culturelle beaucoup plus complexe, que malheureusement pour nous, on ne trouve que peu d'éléments, parce que si, par exemple, ils avaient une forme d'activité artistique sur écorce d'arbres, sur de la vannerie, des choses comme ça, mais on n'en a pas des traces. Or, je vous rappelle qu'il y a déjà 2 ans, on a mis en évidence des Néandertaliens qui fabriquaient des cordes. Donc, des cordes, la vannerie, vous voyez, on n'est pas très loin. On se rend compte d'un monde beaucoup plus complexe qu'on ne l'avait cru. Et finalement, s'il y a eu métissage entre Néandertal et Sapiens, c'est aussi parce que c'était des cueilleurs-chasseurs, comme les premiers Homo sapiens qui vont investir l'Eurasie. Et donc, ils avaient un mode de vie qui n'était pas très différent. Et il est sans doute possible que les Néandertaliens, vu que Sapiens venait d'un autre territoire, d'une autre géographie, aient appris que beaucoup de Néandertal qui vivaient dans un territoire qui était complètement différent, dans un autre climat.
Ouais, très intéressant ce que vous dites. Les plus évolués ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. Enfin, en tout cas, il faut réviser tous nos a priori. Et comme vous le disiez aussi, Stéphane Mazière, il faut vraiment, c'est une évolution biologique et culturelle. Et les deux vont ensemble. Quand on étudie les espèces humaines, aujourd'hui, on n'a plus qu'une sur Terre, on est bien d'accord, mais les espèces humaines passées, ça ne peut être que en interdisciplinarité, en globalité, le biologique et le culturel.
Oui, bien sûr. Maintenant, les archéologues, quand ils sont sur le terrain, ils pensent de suite à si on a quelque chose. On va faire des analyses qui peuvent être chimiques pour les isotopes, génétiques. Désormais, on peut même extraire du matériel génétique du sédiment, donc de la géologie. Et à l'inverse, les généticiens, en découvrant ces espèces inconnues, on a là génétiquement des espèces virtuelles qui vont quelque part dicter aux archéologues où chercher les... En fait, on est des espèces sans avoir les restes matériels dans les mains, quoi.
C'est extraordinaire. Ça change effectivement tout notre rapport. Ça me donne envie de vous réinviter parce qu'on arrive à la fin de cette émission et qu'on a juste amorcé. Mais merci en tout cas à tous les deux d'être venus depuis le sud de la France pour partager en direct avec nous toutes ces recherches bouleversantes, ces découvertes sur nos multiples ancêtres, plus complexes qu'on imaginait. Puis ça nous éclaire, nous aussi. Je vous l'ai dit, vous revenez quand vous voulez pour rajouter quelques branches à notre arbre généalogique. Et je signale, Sylvain Condemi, la parution en poche, totalement revisitée de Néandertal, mon frère, coécrit avec François Savatier, avec qui vous aviez aussi publié, toujours chez Flammarion, Dernière nouvelle de Sapiens, 2 ouvrages qui sont désormais traduits dans de nombreuses langues, dont le turc et le flamand. Bravo, on est tous les mêmes humains aujourd'hui sur Terre, on peut le rappeler. Merci à vous.
Merci à vous, Caroline. Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner bien sûr à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Autour de la question, comment faire rayonner la recherche africaine, nous serons en duplex à Dakar avec la professeure en sciences politiques Mampenda Ba, très engagée dans l'aventure globale Africa ou comment rendre visibles les chercheurs du continent et de la diaspora. À demain pour en savoir plus, surtout restez curieux chers amis auditeurs. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.
Après avoir sorti 2 albums